Vous affirmez par exemple que deux des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA.
Schuman était ministre de Pétain.
Ça a été dit d'abord par Monnet. C'était d'ailleurs un agent américain. On ne sait même pas combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié.
À quelques semaines des élections européennes, c'est le grand retour des contre-enquêtes, des documents vérités qui dévoileraient le vrai visage d'une Europe totalitaire, fondée soit sur ordre de l'ennemi américain, soit sur les germes de l'idéologie nazie, réalisant in fine le vieux rêve hitlérien d'une Europe sous domination allemande. Ainsi entend-on que Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, aurait été un agent de la CIA, que le premier président de la Commission européenne, un ancien mentor d'Hitler, et Robert Schuman, un ministre de Pétain. Bonjour Éric Roussel.
Bonjour.
Vous êtes historien, journaliste, vous avez notamment publié une biographie de Jean Monnet chez Fayard. Alors est-ce que l'Europe est pilotée par les services secrets américains ?
Présenté comme ça, c'est une thèse qui est absurde. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Il est évident que du fait du rôle que les États-Unis avaient joué dans la victoire de 1945, il est exact qu'il y a eu une réflexion, notamment aux États-Unis, de gens qui étaient exilés, par exemple comme Paul-Henri Spaak, Monnet aussi se trouvait aux États-Unis. Donc un certain nombre de gens qui se trouvaient exilés là-bas ont commencé à réfléchir à l'avenir du vieux continent. Il est absolument établi par la suite que les États-Unis, disons jusqu'à Kennedy quoi, à peu près, ont soutenu cette politique d'unification, d'intégration européenne. Mais ramener ça à une thèse complotiste en disant que c'est le directeur de la CIA qui a décidé de lancer cette ligne et de recruter des agents, c'est une thèse absolument effarante.
C'est pas la première fois qu'on entend dire, Éric Roussel, que Jean Monnet était un agent de la CIA. Ça, c'est une idée qui ressurgit régulièrement depuis 50 ans quasiment.
Jean Monnet n'a jamais dissimulé qu'il était proche des Américains. Il avait beaucoup d'amis américains et il avait joué un très grand rôle pendant la guerre.
Mais est-ce qu'il était un agent de la CIA ?
Moi, j'ai jamais vu ça. C'est absurde. C'est vrai qu'il était ami de John Foster Dulles, qui a été secrétaire d'État de Eisenhower. Il était proche de beaucoup de responsables américains. Mais comme, Paul-Henri Spaak, Alcide de Gasperi, Adenauer, enfin, alors lui, peut-être encore plus, parce qu'il avait joué un très grand rôle pendant la guerre, parce qu'il avait été envoyé, il faut vous rappeler ça quand même. Philippe de Villiers n'en parle pas du tout. Jean Monnet était français. Il s'est trouvé à Londres en 1940. Il était à la tête d'une mission. Il a été envoyé à ce moment-là par Churchill aux États-Unis, où il est devenu vice-président du British Supply Council. Alors évidemment, selon les normes villiéresques, c'est une position cosmopolite et qui ouvre la voie à la suspicion. Pour autant, Jean Monnet a joué un très grand rôle. Il y a des documents qui établissent que dans l'élaboration du Victory Programme, c'est-à-dire le programme d'armement qui a permis finalement la victoire sur l'Axe, Jean Monnet a joué un très grand rôle. Il y a des lettres du ministre de la Guerre des États-Unis disant qu'il a été l'inspirateur de ce projet. Keynes a dit que l'action de Jean Monnet avait raccourci la guerre d'un an. C'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, mais enfin, il est certain qu'il a joué un rôle. Alors, le présenter comme une sorte de vulgaire agent de la CIA est complètement idiot. Dans son livre, Philippe de Villiers raconte que c'est la fondation Ford qui a donné l'ordre, c'est SIC comme on dit, à Jean Monnet d'écrire ses mémoires pour les écrire dans un certain sens. Enfin, c'est une chose, mais c'est complètement aberrant. Et alors, pour faire bonne mesure, Philippe de Villiers cite un certain nombre de lettres que Shepard Stone, qui était un homme des dirigeants de cette fondation, écrivait à Jean Monnet. Et il imagine qu'il se tutoie. Mais Jean Monnet, à ma connaissance, ne tutoyait personne en dehors de sa famille. Là, c'est vraiment pour faire une sorte d'effet, de subvertir des documents pour qu'ils aillent dans un certain sens. Voilà.
Il y a beaucoup de fantasmes également dans le livre que vous citez, celui de Philippe de Villiers, mais pas uniquement, autour d'un groupe qui s'appelle le groupe Bilderberg, qui déciderait dans l'ombre de la politique européenne pilotée par les États-Unis.
J'ai vu dans le livre de Philippe de Villiers que il reproduit un certain nombre de documents qui établiraient la complicité terrible de Jean Monnet avec ce groupe de Bilderberg. Alors, ce sont simplement des invitations qui sont signées par le prince Bernard des Pays-Bas. Ça me paraît quand même pas quelque chose d'absolument... Et en plus, ce sont des documents qui sont ouverts à tout le monde. Donc, il est possible que ce groupe Bilderberg appuie la construction européenne. Ça, c'est possible. Il y a des tas de groupes comme ça qui... Mais ce n'est pas un groupe absolument secret. On sait quand il se réunit. La preuve, c'est qu'on trouve les invitations, on trouve les documents. Tout ça, c'est de l'ordre du fantasme.
Alors l'autre théorie, Éric Roussel, c'est que l'Europe serait in fine, ça aussi hein, c'est une idée qui ressurgit aujourd'hui mais qui est une idée vieille comme l'Europe, j'ai envie de dire, que l'Europe serait in fine la réalisation du grand projet hitlérien, à savoir d'une Europe unifiée sous domination germanique.
Prétendre, comme le fait Philippe de Villiers, que Schuman était le, aurait été l'instrument, au fond, de ce rêve hitlérien, puisque c'est ça. Il va jusqu'à dire que Schuman, c'est un fait que Schuman n'a pas été un résistant actif pendant la guerre. Bon, il était lorrain, il était dans une position qui n'était pas facile, puisqu'il était à moitié, il avait été allemand, il avait porté l'uniforme allemand, ça c'est vrai, pendant la Première Guerre mondiale. Et il s'est caché dans des monastères pour échapper aux pressions allemandes. Et à ce motif, Philippe de Villiers le compare à Touvier, le milicien criminel. C'est du délire.
C'est-à-dire qu'effectivement, dans le livre que vous citez, Philippe de Villiers accuse Robert Schuman d'avoir été collaborateur et membre du gouvernement Pétain. C'est vrai ou c'est faux ?
Mais c'est vrai qu'il a été membre du gouvernement Pétain. Ce n'est pas du tout une révélation. Il est resté très peu de temps. Il a fait partie du premier gouvernement Pétain, comme un certain nombre. Il y avait deux ministres socialistes, Février et Rivière, qui sont entrés, probablement, on le sait maintenant, avec l'accord de Léon Blum. Il y a eu un moment où l'histoire a hésité. Il n'était pas écrit absolument dès le départ, comme on le croit aujourd'hui, que Pétain avait encore, pendant au moins jusqu'au 10 juillet, l'image du vainqueur de Verdun. Enfin, il était très peu contesté. Il n'y avait guère que De Gaulle. Et d'ailleurs, quand De Gaulle l'accusait d'être un traître, ça choquait un certain nombre de gens. Alors Schuman a fait partie de ce gouvernement, il a voté, bon, il a fait une erreur, il a voté les pleins pouvoirs, mais il a été relevé de l'indignité nationale qui frappait automatiquement les parlementaires qui avaient voté ces pleins pouvoirs. Il en a été relevé en raison de l'attitude qu'il a eue par la suite et qu'on a pu prouver. Et il n'est pas le seul d'ailleurs dans ce cas. Il y a un président de la République française qui a été, René Coty aussi avait voté le plein pouvoir. Il est devenu quand même président de la République et c'est lui qui a ouvert la voie à De Gaulle.
Et d'ailleurs, Robert Schuman, il a très vite mis fin à sa collaboration au gouvernement Pétain.
Dès l'été 40. Donc c'est vraiment la thèse complotiste à l'état pur qui se fonde malheureusement sur l'ignorance qui progresse à grands pas.
Une dernière chose, il parle également, Philippe de Villiers, dans ce livre de Walter Hallstein, qui était le premier président de la Commission européenne, qui lui aurait été non seulement juriste d'Hitler, mais une sorte d'enseignant du nazisme. Que faut-il penser de...
Ce qui paraît fondé, c'est que Hallstein n'a certes pas été un résistant les armes à la main contre le nazisme, ça c'est évident. Il était professeur de droit. Il a été obligé, certainement, de faire partie d'organisations plus ou moins para-national-socialistes. Oui, ça c'est... Est-ce que... Je ne crois pas, à ma connaissance, que ça ait impliqué de sa part une adhésion. Et il a été, lui aussi, l'objet de poursuites après la guerre. Et apparemment, il a été lavé de soupçons. Alors, Philippe de Villiers présente les choses en disant qu'il y a eu une sorte de lavage de cerveau et que les Américains, connaissant son passé nazi, l'auraient, en quelque sorte, obligé à aller dans un certain sens. Ça va en tout cas dans le sens du complotisme qui règne sur tout ce livre.
Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose pour conclure, Éric Roussel, d'un peu compliqué, en tout cas d'un point de vue historique, à imaginer à la fois l'Europe comme étant une excroissance de l'impérialisme américain et en même temps la complétion d'un grand rêve pan-germanique hitlérien ?
C'est quelque chose d'absurde. Il faut d'abord rappeler une chose, on a oublié de le dire, c'est d'une part que l'Amérique de ces années-là n'était pas l'Amérique de Trump, malgré tous les défauts, les combats douteux où elle avait pu s'impliquer au sud-est asiatique, en Amérique du Sud, c'était quand même un pays qui défendait la liberté, le monde libre. Ce qui est incroyable dans le livre de Philippe de Villiers, c'est ce contexte de la guerre froide n'apparaît jamais. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais que la Russie soviétique, comme disait De Gaulle, on a l'impression que les gens qui ont considéré à l'époque que la Russie soviétique était un danger ont été l'objet d'une hallucination. Et c'est quelque chose de fondamental qui explique tout ce contexte et qui explique que la construction européenne et était effectivement favorisé par les États-Unis.
Pour faire rempart justement à une tentative éventuelle d'expansion russe.
Il y avait cette idée, il y avait aussi l'idée de mettre fin au conflit qui avait déchiré l'Europe, notamment l'Europe occidentale, au début du XXe siècle.
Merci beaucoup Éric Roussel, je rappelle que vous êtes historien, journaliste, notamment auteur d'une biographie de Jean Monnet chez Fayard.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.